On parlait déjà de diversifier, de penser à l'après-pétrole dans les années, déjà dans les années 80, dans les années 90. Et en fait, il y a une sorte d'impuissance face à... c'est assez caractéristique quand même. Il y a une sorte d'impuissance, c'est-à-dire que quelles que soient les politiques mises en œuvre ou l'absence de politique, en fait, dans tous les cas de figure, on a un accroissement de la dépendance au pétrole, et particulièrement dans la période des années 2000 où le prix était très élevé, ainsi que tous les problèmes qui lui sont associés, donc appréciation du taux de change, destruction des secteurs de l'industrie qui sont ouverts à la concurrence internationale, boom des importations. Contrôle. Alors sur les importations, justement, ce matin, Paola a parlé de la manière dont la rente est distribuée. En Algérie, pendant longtemps, et ce n'est que récemment qu'il y a des mesures ont été prises pour limiter ça, mais un des points par lequel était prélevée la rente, c'était les surfacturations des importations. Donc les importateurs qui avaient donc accès aux devises pour importer, et souvent pour importer pour la consommation, pas pour investir. Donc ils surfacturaient les importations, et donc ça leur faisait récupérer des devises. Et c'est ces devises qui alimentaient le marché noir, parce qu'il y avait un marché noir des devises qui était largement alimenté. Et en fait, on a calculé que en parallèle, il y avait tout un secteur informel ou de petits... On va dire secteur informel et entrepreneurs privés, mais qui n'avaient pas accès aux devises, qui s'approvisionnaient sur ce marché pour leur activité économique. Donc en fait, on avait une sorte de marché d'offres, une offre et une demande de devises. Donc une offre de devises qui avait été obtenue au taux de change subventionné, on va dire, hein, taux de change subventionné par l'État, voilà, qui avait été obtenue par ceux qui avaient accès aux devises parce que c'était des importateurs formels, dans l'économie formelle. Et puis une demande émanant en grande partie, bon, ça, la demande pouvait émaner aussi des individus, des ménages, mais en grande partie du secteur informel et de secteur privé qui n'avait pas accès, donc qui l'achetait au prix fort, qui achetait ses devises au prix fort. Et d'ailleurs, ce marché a commencé à s'assécher lorsqu'on a réduit les importations, ce qui a fait monter parce qu'il n'était plus alimenté comme avant, qui a fait monter le cours du marché noir au moment où récemment, donc on a réduit de manière assez drastique les importations. Pour dire que tout est lié en fait, et que le problème de ces régimes, en tout cas du régime en Algérie, c'est qu'ils prennent des mesures sans anticiper les conséquences multiples et les liens d'interdépendance qu'il y a avec d'autres aspects de l'économie, ce qui fait que on a du mal à comprendre, par exemple, pourquoi en Algérie il y a une telle volatilité au niveau des décisions gouvernementales. Ils prennent une mesure, après ils reviennent dessus, après ils en prennent une autre, et c'est complètement instable. Mais c'est parce que précisément, comme on n'anticipe pas les liens de causalité, les relations multiples entre les différentes variables, ils sont obligés, ce qui s'est passé d'ailleurs assez récemment, c'est qu'ils ont été obligés de revenir sur les limitations aux importations parce que ça avait beaucoup d'impacts négatifs, plusieurs impacts négatifs. Alors, paradoxalement, on observe également dans les deux pays une contraction de l'activité pétrolière qui a pour conséquence une baisse de la production tout au long de la période. Cette situation est aggravée en Algérie par l'augmentation de la consommation locale d'énergie, pétrole et gaz, favorisée par les prix subventionnés, tandis qu'au Venezuela, la principale source d'énergie pour la consommation locale est hydraulique. Et donc en Algérie, cette situation de subvention de l'énergie, en fait, ce n'est pas une situation paradoxalement qui est héritée de la période socialiste, c'est une situation qui est venue, ces subventions, en tout cas, le niveau qu'elles ont atteint, et il est sur l'énergie. Hein, il est venu dans les années où l'énergie était élevée. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'origine, en fait, si on cherche, C'est la stratégie industrielle qui préconisait de revenir à une forme de substitution aux importations, mais en fait, qui critiquait qui parle de deux politiques de substitution aux importations. Une politique qui a été menée dans les années 70 sous un régime socialiste et qui était donc qui n'était pas dans un contexte d'économie ouverte, d'économie de marché, d'économie libérale. Et donc, il propose la stratégie industrielle des années. La première version, c'était en 2004.
Ah oui, 2006.
2006, je n'ai plus les dates en tête. En fait, la deuxième version, c'était de dire on reprend la politique de substitution aux importations, parce que, en fait, la première, ce n'était pas vraiment une politique, c'était plus qu'une politique de substitution aux importations, hein, c'était une politique de développement auto-centré, enfin, ça dépassait largement ce cadre. Donc, la version, c'était une politique de substitution aux importations dans un contexte relativement libéralisé, parce qu'il ne l'a pas vraiment été, et donc jouer sur, pour attirer les investisseurs étrangers, jouer sur les avantages comparatifs. Et un des avantages comparatifs qui avait été identifié, c'était le bas coût de l'énergie. L'argument, c'était de dire qu'en Algérie, les salaires étaient élevés, donc on ne pouvait pas jouer comme les pays émergents d'Asie ou l'Amérique latine sur le bas coût de la main-d'œuvre, ce qui était complètement artificiel parce que le coût de la main-d'œuvre est élevé du fait du taux de change aussi subventionné. Enfin, c'était dans un contexte, hein, mais la main-d'œuvre, son coût n'est pas vraiment très élevé en Algérie. C'est du fait des distorsions induites par les subventions de taux de change, notamment, et pas seulement. Et donc, le fait d'avoir mis en place des subventions qui, au départ, étaient censées être incitatives, mais qui, en fait, après, se sont généralisées, et donc c'est devenu finalement le pays où, je crois, le prix interne de l'énergie est un des plus bas au monde. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle l'Algérie n'a pas adhéré à l'OMC, c'est qu'il y a eu un bras de fer autour de ça et que l'OMC n'a pas... L'OMC s'est entêté à... C'était à l'époque de... Comment il s'appelle le directeur de l'OMC ? S'est entêté à vouloir considérer l'énergie comme un bien comme un autre. Et donc... voulait que l'Algérie mette le prix, ajuste son prix interne sur les prix internationaux. Et là-dessus, bon, l'Algérie, elle a bloqué son entrée à l'OMC. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, si les pays pétroliers avaient été judicieux et puissants, c'est qu'ils auraient dû demander à l'OMC, obtenir à l'OMC que l'énergie soit pas considérée comme un bien comme un autre, parce que précisément c'est pas un bien et c'est pas normal que pour l'OMC ce soit un bien comme un autre, dans la mesure où l'OMC considère l'agriculture déjà comme un secteur à part et qu'il y a un certain nombre de biens qui ont un statut particulier dans l'OMC. Mais ça, c'est la faiblesse des pays pétroliers qui n'ont pas eu de stratégie au sein de l'OMC, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en rang dispersé, qu'ils n'ont pas eu de stratégie au sein de l'OMC pour, ne serait-ce que parce que l'énergie, elle est rare, que parce qu'il y a le problème aussi du climat et c'est un bien qui doit être préservé parce qu'il est rare et aussi parce qu'il pollue et qu'il y a toute cette histoire de... Donc, il y aurait eu vraiment des arguments si ces pays avaient eu une stratégie, lorsque par exemple la Russie est entrée à l'OMC, lorsque les grands pays pétroliers sont entrés à l'OMC, il y aurait eu vraiment une opportunité pour faire passer et ne pas se retrouver finalement l'Algérie toute seule face à l'OMC qui lui dit non, le pétrole est un bien comme un autre, alors que ce n'est pas un bien comme un autre. C'est une aberration, c'est vraiment une aberration. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, je disais que cette situation est aggravée en Algérie par l'augmentation de la consommation locale d'énergie. Autre différence entre les deux pays, en Algérie, donc dans la période, toute la période des années 2000, la politique monétaire orthodoxe, donc il y a une politique monétaire, et ça j'expliquerai pourquoi, orthodoxe, c'est-à-dire avec un ciblage de l'inflation, donc ne pas dépasser un niveau d'inflation, menée par la Banque d'Algérie, a réussi à contenir l'inflation, donc à maintenir une certaine stabilité, mais au prix d'une contraction du crédit, aggravant le processus de désindustrialisation. Donc, c'est toujours pareil. Donc, on maîtrise une variable, mais on, on en laisse filer une autre. De même, la constitution d'un fonds de régulation des réserves, donc qui a été constitué au début des années 2000, et c'est un fonds dans lequel étaient mis les excédents du pétrole. C'est-à-dire que le calcul qui était fait, c'est que on fixait de manière artificielle un prix du pétrole, et lorsque le prix du pétrole sur le marché international dépassait ce prix, tous les excédents étaient mis dans ce fonds de régulation. Et alors, au départ, ce fonds de régulation, il était conçu pour n'être utilisé qu'en cas de baisse du prix du pétrole. C'est-à-dire, en fait, c'était un fonds vraiment pour réguler, c'est-à-dire pour réguler des fluctuations. Hein, c'était à partir de l'idée... Ce n'était pas un fonds qui était prévu pour mettre de l'argent de côté pour les générations futures, parce que dans ce cas-là, ce fonds aurait été placé dans un compte rémunéré. Ce n'était pas le cas, il n'était pas placé dans un compte rémunéré. Ce qui d'ailleurs était considéré comme une aberration par les experts du FMI, qui disaient même si vous ne le placez pas à l'étranger, au moins mettez-le dans un compte rémunéré dans le pays, c'est-à-dire que cet argent aurait pu servir à financer des investissements dans le pays et aurait été rémunéré. Mais ce n'était pas le cas, c'était un fonds... tout à l'heure, Paul a parlé de comment les revenus pétroliers sont transformés en monnaie locale. Mais là, c'était un fonds qui était donc des devises déposées par la Sonatrach qui exporte le pétrole, déposées par la Sonatrach dans les banques, qui donne une partie. Il y a la Sonatrach et puis une partie qui est prélevée sous forme de taxes, ces montants, pour ceux qui excédaient donc le montant calculé avec un prix fixé du pétrole, étaient mis dans ce fonds de régulation qui n'était rien d'autre qu'un compte spécial du Trésor. Donc je reviendrai après sur ce compte spécial du Trésor. Et donc ce fonds de régulation, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le pétrole s'est mis à augmenter sur une très longue période, ça a duré pratiquement une dizaine d'années, ça a commencé vraiment à monter à partir de 2004 jusqu'en 2014, 10 ans. Hein. Il n'était pas prévu en fait pour ça, il était prévu pour des fluctuations, donc pour compenser en fait les hausses et les baisses. Il n'était pas prévu pour une accumulation comme ça sur une longue période. Ce qui fait que cette politique... je reviendrai après sur le fonds de régulation, parce qu'il va faire partie après il va faire partie des mesures qui vont être mises en œuvre pour juguler la crise déclenchée par la baisse du prix du pétrole en 2014. Donc, ce fonds de régulation des réserves, dans lequel étaient placés les excédents financiers résultant de l'exportation des hydrocarbures, et qui a permis d'amortir de 2014 à 2016. Certains impacts du choc de la baisse du prix du pétrole de 2014, mais également de repousser les réformes, tandis qu'au Venezuela, les effets sur la population semblent avoir été plus rapides et plus brutaux, pénurie, baisse du niveau de vie, inflation aussi très importante. Alors, ce que je voudrais faire, c'est donner un peu un éclairage. Un éclairage partiel. Bon, c'est un, je veux dire, l'objet de notre étude est complexe, et d'autant plus complexe qu'on veut faire une comparaison et qu'on veut aborder ces questions de manière pluridisciplinaire. Et donc, cette complexité, moi, je vais la traiter en prenant les choses sous un angle particulier, mais qui n'épuise pas tout. Qui n'est plus pas toute la question, qui donne une explication qui doit être complétée par d'autres, parce que si on regarde, tout à l'heure j'ai dit par exemple qu'on n'arrive pas à comprendre le revirement, les mesures qui sont prises, et puis les revirements, les retours en arrière, un peu le bricolage qui est fait. Et donc si on regarde un peu tout ce qui se passe, même quand on est un observateur attentif, On a l'impression d'une irrationalité. On a l'impression que c'est qu'on est dans des pays où les choses fonctionnent de manière incohérente, irrationnelle, et qu'il y a pas de logique. Alors, parce qu'il y a des logiques multiples en fait, et puis il y a des logiques qui déclenchent d'autres logiques. Voilà. Et moi, je ne crois pas beaucoup aux théories qui englobent tout, les théories totalisantes qui prétendent tout expliquer. Donc, on va forcément avoir des explications partielles. Donc là, l'angle que je prends, c'est un angle un peu, on va dire, un peu particulier, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un effet d'apprentissage, en fait, un petit peu comme l'économie évolutionnariste, un effet d'apprentissage, c'est-à-dire que ce soit les gouverneurs, les élites ou même les populations, par rapport à des phénomènes très, très, très violents, très brutaux, comme les baisses, les chocs pétroliers, ils apprennent, en fait. Ils apprennent, et quand la chose se reproduit, ils ne vont pas réagir forcément de la même manière. Donc, il va y avoir la mémoire. Donc, il y aura une mémoire des acteurs. Et c'est vrai que la théorie économique ne prend pas souvent en considération, ou quand elle le fait de manière assez partielle, assez mécanique, le fait que les agents économiques ont une mémoire et qu'ils ont... Donc, il y a cet apprentissage. Et... En fait, ça va consister à dire que, à prendre en considération le fait qu'en Algérie, il y a eu un choc très violent, donc il y a eu le choc pétrolier de 85, qu'on a mis du temps à absorber et auquel on a mis du temps à faire face parce que bon, l'économie était très rigide, le système politique aussi était très rigide et que les dirigeants pensaient que ils s'attendaient à ce que le pétrole remonte, donc ils espéraient que ça allait repartir. Donc ils ont mis quand même de 85, 86, on va dire 86, jusqu'en 88 où il y a eu une explosion, donc des émeutes, et alors là les choses se sont précipitées, donc il y a eu un changement politique assez radical puisqu'on a abandonné le système du parti unique, on est passé à un système de démocratie participative, enfin démocratie parlementaire, on va dire, avec plusieurs partis. On pourra discuter de ça parce que cette nouvelle donne, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, il y a des hypothèses, hein. Mais cette nouvelle donne politique, en fait, cette nouvelle donne politique, l'ouverture politique, au départ, elle a été dictée par le projet de réforme économique. En gros, il y avait un projet de réforme économique parce que il en allait de la pérennité du système et de la pérennité de tout ce qui avait été construit sur ce système. C'était un système qui était plus viable. Et donc, il fallait faire des réformes économiques, et des réformes économiques assez, assez radicales. Ces réformes économiques, elles ont été pensées et lancées avant la chute du mur de Berlin. Donc, on n'était pas encore dans la transition à l'économie de marché. On était encore dans... une conception un peu d'économie socialiste de marché. C'était le modèle qui, à l'époque, c'était l'idée d'économie socialiste de marché. C'était ça un peu le projet qui avait mûri au sein du FLN, au sein des élites éclairées un peu en Algérie. Et les choses se sont précipitées d'abord parce que il y a eu ce changement politique avec l'ouverture au pluripartisme qui était au départ une stratégie du pouvoir en place pour faire barrage à l'opposition qui risquait de gagner les élections. Donc ils ont préféré donner un coup de pied dans la fourmilière, ouvrir tout pour avoir la main après et fabriquer des partis qui étaient des émanations du pouvoir. Oui, c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils sentaient bien que le pouvoir allait leur échapper. Et d'ailleurs, moi, je pense si l'Algérie n'avait pas suivi cette voie, si elle avait suivi plutôt une voie à la chinoise, c'est-à-dire avec une ouverture progressive, une ouverture économique et puis une ouverture politique progressive, parce qu'il y avait quand même une amorce d'ouverture politique au sein du FLN. Il y avait des tendances. Le FLN avait commencé à envisager de faire un peu comme le PS français, c'est-à-dire d'ouvrir à des tendances au sein du parti. Ça, c'était une voie qui aurait été peut-être moins dramatique. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ouverture politique qui, au départ, avait été rendue nécessaire parce que le projet de réforme économique avait besoin d'une légitimité. Parce que le projet de réforme économique, c'était des réformes, essentiellement des réformes institutionnelles, c'était mettre en place des règles, des institutions, et il avait besoin d'une légitimité. Il ne pouvait pas être... donc, la légitimité, les artisans de la réforme ont pensé l'avoir en faisant des élections, sauf que, bon, le diable est sorti de sa boîte, et ça a été le raz-de-marée, enfin, le raz-de-marée islamiste. Ça n'a pas été... En fait, si on regarde les élections législatives, ils n'avaient qu'une majorité relative. Hein. Ce n'était pas une majorité... c'est déjà filmé. ils avaient eu une majorité relative, mais enfin bon. Et ça a complètement changé le cours des choses, hein, puisque du coup on n'était plus sur des réformes économiques, c'était plus la priorité. La priorité, c'était faire face à ce qui se passait sur le champ politique, d'autant plus qu'entre-temps il y a eu la chute du mur de Berlin, avec tous les changements au niveau international qui sont arrivés en même temps. Et donc, le gouvernement algérien, qui avait quand même réussi à maîtriser un peu la situation et à éviter le réchelonnement de la dette, à éviter... Alors, il s'était endetté, c'est vrai, mais il s'était endetté à court terme et il était encore solvable parce que c'est un pays pétrolier, on savait. Donc, il avait encore une solvabilité auprès de ses créanciers, notamment auprès du Japon, qui était prêt à prêter de l'argent à l'Algérie à condition qu'il ne réchelonne pas la dette. Bon, l'Algérie a fini par réchelonner. Bref, c'est pour ça que je dis qu'en 92, lorsqu'on a interrompu le processus démocratique et qu'on a eu un retour en fait, du régime précédent au pouvoir, mais encore plus dur et plus isolé, on n'était plus dans la configuration avant les réformes où c'était un régime qui avait commencé un peu à s'ouvrir. Il avait commencé un peu sa perestroïka, on va dire, avant les réformes. Et après le coup d'État de 92, il s'est durci, mais vraiment complètement isolé. Il s'est durci et il s'est trouvé dans une situation de cessation de paiement, obligé donc de réchelonner. Et ça a été un traumatisme. Et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé après sans tenir compte du fait que les dirigeants algériens, leur devise pendant des années, ça a été « plus jamais ça ». Plus jamais ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dès que le pétrole, dès qu'ils ont pu se renflouer, rembourser toutes les dettes jusqu'au dernier sou, quitte à faire crever les Algériens de faim comme Ceausescu l'avait fait en Roumanie à l'époque. Il n'avait pas un sou de dette, mais les Roumains étaient dans la misère. Donc, c'est la politique qui a été, en fait, qui a été tenue. Ça, c'était un trend hein, qui était tenu avec une politique monétaire de la Banque d'Algérie très orthodoxe. Se protéger des pressions extérieures, ne pas prêter le flanc aux pressions des Occidentaux pour ne pas avoir à recommencer l'épisode de l'ajustement structurel, c'est-à-dire pendant 4 ans, de 94 à 99, de devoir ouvrir les comptes, de devoir tout montrer. Ça a été un vrai traumatisme. Et on ne peut pas comprendre tout ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé après, c'est que ils ont essayé de tenir au maximum, et la guerre civile a rendu ça possible parce qu'il n'y était plus question de paix sociale ni rien du tout. Donc on avait mettre de l'argent de côté dans ce fonds de régulation et surtout ne plus laisser filer la dépense publique et ne plus engager de dépenses irréversibles. C'est-à-dire que toutes les dépenses qu'on va faire, il faut que ce soit des dépenses qu'on peut très vite interrompre. Dès qu'on se retrouve, dès que le pétrole baisse, c'était ça la stratégie. Dès que le pétrole baisse, donc ça explique pourquoi on a laissé filer en fait les importations, parce que les importations, c'est quelque chose sur laquelle on a la main. Voilà, on peut réagir très vite et les baisser. Et on ne peut pas comprendre tout.
Voilà,
ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bon, il y a eu un timide plan de relance, mais c'était vraiment très peu, hein, un plan de relance, parce que quand même, on ne peut pas non plus se permettre dans un pays en développement où les besoins ne sont pas satisfaits, de dire aux gens, on met de l'argent de côté pour demain. Enfin, c'est quand même incroyable ce qu'ont fait les gouvernants algériens. Ils ont mis de l'argent, et c'est en plus, ils l'ont mis de côté, ils ne l'ont même pas placé. Il n'était même pas placé, même, il ne rapportait rien, même pas dans un compte, je veux dire, au niveau interne. Ne parlons pas de... Alors, cette politique-là, bon, ils l'ont menée, mais ils n'ont pas pu, forcément, ils ne pouvaient pas la mener complètement jusqu'au bout. Donc, ils ont comment... Alors, parce que, déjà, déjà comme le pétrole a augmenté, et donc le risque de le voir d'un nouveau choc... semblait de moins en moins... On oublie après, hein, on oublie qu'on a fait tout ça pour parer à des chocs. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a eu donc un premier plan de relance assez timide. Le deuxième plan de relance était plus large, plus important. Et précisément, on n'a pas augmenté les salaires. C'est ça qui est irréversible, en fait, c'est augmenter les salaires. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des programmes, mais des programmes qu'on peut arrêter aussi. Hein. Par exemple, ça, c'était sous la pression du FMI, ça a été la mise à la retraite parce qu'on a privatisé. Donc, des programmes de retraite, voilà, c'est le fameux retrenchment qui a été... D'ailleurs, il y a eu des articles élogieux de la Banque mondiale, enfin, disant que le modèle algérien était très bien. Bon, elle a fait un article en disant qu'il était très bien, elle a fait un article quelques années après en disant que c'était pas si bien que ça, parce que ça coûtait quand même très cher, ces retraites anticipées. D'ailleurs, bon, ça, c'est un héritage qui existe, enfin, c'est un Algérien, c'est un pays où la retraite est généralisée, même pas que les fonctionnaires, hein, Alors, et les investissements dans les infrastructures, ça a été donc le deuxième mandat de Bouteflika, mais c'était, en fait, c'était aussi des investissements qui étaient prudents, on va dire. Pourquoi ? Ce qu'ils ont fait. Alors, il y avait la pression pour s'ouvrir aux IDE, donc on a dit, d'accord, ok, on va s'ouvrir aux IDE, mais en fait, ça aussi, les IDE, c'est quelque chose quand même assez... C'est irréversible, et puis en plus, les investissements étrangers, ok, ils apportent des investissements, mais en fait, ils ne voulaient pas développer... C'est cette politique-là qui ne pas vouloir rentrer dans des logiques de dépenses irréversibles. Ou en tout cas, réversibles sur le long terme. Or, si on regarde. Ah, il ne marche pas ?
Non.
Les investissements directs, les Chinois, les projets, tous ces projets d'infrastructure, alors autoroutes, barrages, sont financés en fait. Par le budget, par l'État algérien, par le budget de l'État. Et les Chinois, ils vendent des services, en réalité. Ils vendent des services. Et alors, ça, c'est très mauvais, parce que s'ils ne sont pas impliqués, si ce n'est pas eux qui investissent, étant donné que l'État algérien non plus n'a pas les capacités de contrôler l'efficience de ces projets. Donc, il y a un énorme gaspillage. Un énorme gaspillage, parce que personne, en fait, n'est intéressé à contrôler l'efficience de ces projets. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Chinois, c'est-à-dire qu'on dit les investissements chinois en Algérie, mais en fait, c'est... Et une grande partie donc, de toutes ces décisions, c'est des décisions qui sont prises. C'est pas des lois, c'est des décrets, c'est des choses qu'on peut tout de suite... C'est comme... on peut tout de suite lever les campements et partir. Si on n'a plus... Voilà. Bon, ceci dit... Au fur et à mesure, quand même, cette politique-là, ils ont dû mettre un peu de... Alors, elle a commencé à produire des effets pervers. Un des principaux effets pervers, ça a été un phénomène purement monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les revenus du pétrole ne sont pas dépensés, mais ne sont pas non plus placés à l'étranger, donc c'est des devises qui sont à la banque centrale. Et donc, forcément, c'est mécanique à partir du moment où, dans le bilan de la banque, hein, où il y a des rentrées de devises, on crée du dinar. C'est la création monétaire, en fait, la création monétaire et la masse monétaire, elle était essentiellement la contrepartie des dépôts de la Sonatrach dans les banques, de ce qu'elle déposait. Alors, on a un petit peu détruit ça... On a un peu limité ça, justement, avec le fonds de réserve, parce que du coup... Alors cette masse, alors comment ils ont fait pour, parce qu'en même temps ils ont maintenu un taux d'inflation parce qu'il y avait une politique monétaire, une politique de, comment ils ont fait? Alors déjà il y avait le fonds de réserve qui était donc des au niveau du trésor, ce qui fait que quand l'argent est au niveau du trésor, il est gelé en fait, il est gelé. C'est pas des dinars qu'on va mettre dans l'économie, exact. Donc c'était gelé. Mais alors ce fonds de réserve de régulation des qui étaient gelés, ils ont commencé petit à petit à prendre de cet argent pour financer les déficits budgétaires, parce qu'ils ont commencé à avoir des déficits budgétaires, parce que le budget était calculé sur un prix du pétrole stable, alors que le prix était beaucoup plus élevé. Le budget était calculé sur ce prix et tous les excédents étaient mis dans le fonds. Et donc, on se trouvait paradoxalement avec un déficit budgétaire alors qu'il y avait tout cet argent dans ce fonds qui était alors c'était un compte courant, un compte spécial du Trésor. Les comptes spéciaux du Trésor, c'est un truc qu'on a hérité du système français, mais c'était des comptes qui sont faits pour des opérations particulières, mais qui n'étaient pas faits pour recevoir autant d'argent. C'était presque plus que le budget de l'État qui était dans ce compte spécial. C'était un truc complètement aberrant et ça a duré pendant des années, alors que le système en France, et en France ils avaient mis en place ce système dans les années 50 et ça avait provoqué des dysfonctionnements parce que ces comptes spéciaux ne passent pas par l'Assemblée, c'est-à-dire c'est pas la loi de finances, donc c'est des décisions discrétionnaires. Et en France, à un moment donné, ils en ont abusé, donc le Parlement a demandé à ce que les comptes spéciaux du Trésor, on peut prendre la décision en cas d'urgence, mais l'année d'après, il faut qu'ils passent devant le Parlement. Or, en Algérie, ils n'ont pas appliqué ça. Ce compte-là, il est resté pendant des années sans être contrôlé, même pas un audit. Il est resté, non, c'était la boîte noire. Alors, au début, ils l'ont. Et dans les textes de création de ce compte, c'était précisé qu'il ne devait pas servir à financer le déficit budgétaire. Il devait servir uniquement à stabiliser les fluctuations du prix du pétrole. C'était la seule chose qui devait... Or, comme il y avait beaucoup d'argent dedans, ça posait problème. Déjà, au niveau politique, la population disait « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Ils sont en train de nous mentir, ils sont en train de le voler. » Il y avait un problème. Donc, il y a eu tout un débat à un moment avant 2008, pour dire qu'il faut créer un fonds souverain, c'est-à-dire qu'il faut le placer. Et ils étaient sur le point de le faire. Ils ont commencé à faire quelques placements. Ils ont acheté des bons de trésor américains. Ils ont fait même quelques placements risqués. Et paf, il y a eu la crise financière 2008. Et ils se sont dit, ouf, heureusement qu'on ne l'a pas placé. Là, on aurait tout perdu. Là, du coup, ils se sont rétractés. Ils se sont rendus compte de la folie que ça aurait été. Parce que ce n'est pas leur argent. Hein. Les dynasties du Golfe, elles peuvent toujours placer l'argent dans des fonds souverains, c'est l'argent des familles régnantes. C'est pas en Algérie, ça leur aurait quand même coûté cher de dilapider ça. Donc ils ont commencé à l'utiliser pour les déficits budgétaires parce que le budget a commencé à prendre de l'ampleur. Alors il a commencé à prendre de l'ampleur. Bon, après 2008, il y a eu la relance chinoise parce qu'en 2008, on voit bien que sur la crise financière, elle a provoqué une baisse du prix du pétrole, puisqu'il y a eu une récession. Mais comme il y a eu tout de suite la relance chinoise, les Chinois ont injecté de l'argent dans l'économie mondiale, donc ça n'a même pas duré une année. Donc ce n'est pas visible trop sur les statistiques, mais il y a eu un choc et ils se sont bien rendus compte que les effets étaient toujours là. Hein. Sur 6 mois, on avait exactement les mêmes effets. En termes de déficit jumeaux, de déficit budgétaire et du commerce extérieur, les mêmes effets que dans les années 86 et tout. Donc, ils ont compris que dès que le pétrole baisse, ça... Donc, voilà. Alors, après 88, bon, le pétrole a beaucoup augmenté. Et alors, ce qu'ils faisaient, c'était des dépenses pour des programmes, par exemple, l'emploi des jeunes, des programmes sociaux, mais des programmes qui n'étaient pas irréversibles. C'est-à-dire qu'on pouvait interrompre à un moment ou à un autre, de manière à ne pas se retrouver et surtout pas augmenter les salaires, surtout pas développer l'industrie. Parce que l'industrie, c'est une fois qu'on met en place des usines, il faut les alimenter. Donc voilà, c'était ça la politique. Et là-dessus est arrivé le printemps arabe, entre guillemets. Donc la révolte en Tunisie. Et donc... À ce moment-là, moi, je pense que... Enfin, le régime a eu très peur. Ils ont pensé que ça allait essaimer aussi en Algérie. Et c'est à partir de là qu'ils se sont mis... Mais en fait, c'est une politique qu'ils avaient commencé un peu avant, parce qu'il faut dire que tout au long quand même de cette période, il y a eu énormément d'émeutes. Le pays fonctionnait à l'émeute permanente. Il y avait des émeutes partout. Et c'était bon. Les émeutes, elles étaient réprimées et tout, mais à un moment, bon, c'était plus possible. Donc, ils ont commencé quand même à lâcher du lest avant dans les services de sécurité déjà. Ils ont recruté énormément. Ils ont commencé à recruter aussi des fonctionnaires parce qu'il fallait quand même recruter des enseignants. Donc, la dépense a commencé à filer. Et c'est toujours pareil, elle file, mais de manière, après, c'est mal géré, c'est pas rationnel, c'est pas quelque chose qui, quand on le fait dans l'urgence, forcément. Et donc, le printemps, en 2011, c'est quelque chose d'assez... j'ai pas mis les chiffres ici, mais d'assez visible, une augmentation très importante des salaires, augmentation du SMIC, enfin, le salaire minimum garanti. Et donc...
Les dépenses budgétaires, elles passaient quand même par le Parlement ou étaient dans ces fonds ?
Elles passaient par la loi de finances, il y avait des déficits budgétaires et ce fonds comblait les déficits. C'était complètement absurde. C'était...
Je pose la question parce que Chavez a fait la même chose. Avec les fonds chinois. Les fonds chinois, c'était un budget parallèle à celui de l'État et à un moment donné, il était tout aussi important que celui de l'État, mais il a décrété l'état d'urgence économique.
Ah oui.
Et il a fait comme une état d'urgence, comme suspension des garanties économiques. Comme ça, il pouvait dépenser les fonds chinois qui étaient issus des prêts qu'avait fait la Chine par des ventes de pétrole à futur.
Ah, d'accord.
Parce que la Chine a déboursé.
L'Algérie n'a pas vendu de pétrole aux Chinois, très peu.
Il a vendu, mais à 20 ans.
D'accord.
Les mêmes prix. Donc le Venezuela est obligé de fournir à la Chine. Pendant 20 ans. Et la Chine a déversé l'argent d'un coup. C'était en 2006. Et ce budget-là était énorme.
D'accord.
Et c'est les fonds chinois, le fonds de Chine. Mais c'est intéressant parce que le fonds de Chine, c'est une boîte noire.
Une boîte noire.
Pas d'audit.
Pas d'audit.
Surtout pas d'audit. Ouais. Donc on ne sait pas, on calcule, les économistes calculent par rapport à ce qui est arrivé, surtout la Chine. Mais c'était un budget parallèle.
Parallèle, c'est
et
ça.
Et pareil avec des investissements, comment est-ce que tu dis, que tu le dis très bien, réversibles.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Réversibles, des choses.
C'est là que tu rentres l'émission.
L'émission, voilà. Oui.
Voilà. Et puis les politiques sociales. C'est réversible. D'ailleurs,
elles ont fini. Voilà. Ben oui, on va en reparler. C'est ça, c'est-à-dire que même la politique sociale, c'est une politique de clientèle, en fait. Voilà. C'est pas vraiment une politique sociale qui met en place des lois, qui accorde des droits. Il faut dire quand même.
Des allocations.
Parce que, bon, il faut dire qu'en Algérie, cette donne-là n'était pas prise en compte tant qu'il y avait la guerre civile et tout, mais à un moment donné, il y avait quand même une contrainte sociale. Et le président Bouteflika, il a quand même... sa devise, c'est de maintenir les subventions. Alors ça, jusqu'à maintenant, c'était sa devise. C'est comme ça qu'il a assis, lui, sa popularité et sa légitimité, ça, c'est sur les subventions. Et alors, un système de subventions.